Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au cœur du lotus. C'est avec une joie immense aujourd'hui que démarre ce premier triptyque de femmes inspirantes. Aujourd'hui, on reçoit Paula Van Grut, une femme extraordinaire, une artiste, une astrologue, pour moi une amie, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup d'amour, et elle va nous raconter son parcours. Alors j'espère que vous êtes prêts. Parce que son histoire est absolument extraordinaire.
Bonjour Paula.
Bonjour Adi.
Merci de m'accueillir aujourd'hui dans ton merveilleux cabinet à Moret-sur-Loing.
Avec plaisir.
Et merci de répondre à l'appel des femmes inspirantes que j'ai dans ma vie et à qui j'ai envie de poser plein de questions.
C'est un honneur. Merci. Moi aussi, tu m'inspires énormément.
Et aujourd'hui, j'aimerais que tu me parles, que tu nous racontes ton parcours.
Ok. Donc je m'appelle Paula. Donc, mon nom de scène, c'est Paula Van Grut. Et en fait, donc, je suis artiste et astrologue. Mais ce n'était pas du tout prévu que je sois ni artiste ni astrologue. En fait, je suis donc d'origine brésilienne. Je suis née à Rio. J'ai 42 ans. Et disons que là, toute la première partie de ma vie, c'était mon père étant diplomate, c'était voilà, voyager. J'ai vécu au Brésil jusqu'à 10 ans, puis après j'ai voyagé un peu partout dans le monde quand j'étais adolescente. Et j'étais à l'école française, donc j'étais scolarisée à l'école française. Et j'avais un rêve qui était de devenir prof de philo plus tard, parce que j'adorais la philosophie et tout ça. Et pour cela, mes parents m'avaient dit, ben, si je voulais faire mes études en France, il fallait que j'aie une bourse d'études. Donc, j'ai passé toute mon adolescence à préparer ça. Donc, travaillant beaucoup, très concentrée. Et j'ai réussi, en fait, effectivement, à décrocher une bourse. Donc, j'arrive en France, j'avais 18-19 ans. Et en fait, j'ai découvert que dans le système français, il y avait un peu un parcours à deux vitesses qui m'a un peu choquée quand j'ai découvert. Moi qui voulais faire la Sorbonne, aller à l'université, apprendre la philosophie, je me rendais compte que je ne pouvais pas le faire parce que les bourses d'études qui étaient données à cette époque-là aux étrangers impliquaient qu'il fallait faire une école prépa et une grande école. Et en fait, j'ai découvert que l'université, ce n'était pas le seul truc, quoi. Et donc... J'ai suivi hein, le chemin, disons, d'excellence que le gouvernement voulait que je suive. Et j'ai fait donc des études très prestigieuses, voilà, Hippocagne à Lille-le-Grand, puis après intégré Sciences Po. Et c'était très drôle parce qu'en fait, à chaque fois, donc tout ce qui pouvait paraître, disons, très étincelant pour beaucoup de gens, moi, de l'intérieur, je le vivais un peu comme une sorte de challenge de tous les ans parce que, étant étrangère, j'avais toujours cette angoisse, en fait, de pas pouvoir renouveler mon visa d'étudiant, de pas pouvoir rester. Donc, en fait, c'était un peu une sorte de vie, je dirais, un peu schizophrène, quoi. C'est-à-dire que de l'extérieur, ça avait l'air extraordinaire, mais de l'intérieur, il y avait beaucoup d'angoisse. Mais voilà, j'ai réussi quand même à aller jusqu'au bout de tout ça. Donc, j'ai fait un parcours universitaire de 5 ans. Et je sors de Sciences Po avec un master en marketing et communication parce qu'en plus, petit à petit, j'ai découvert que je ne pouvais pas devenir prof parce que je n'étais pas française. Petit à petit, j'ai compris qu'il fallait que je m'oriente vers le secteur privé parce que, en étant étrangère, travailler dans les administrations, ainsi de suite, ça impliquait que soit j'avais un visa à long séjour, chose que je n'avais pas, soit j'étais française, quoi. Donc, c'était très compliqué. Donc, petit à petit, j'ai commencé à faire des sortes de choix qui étaient très pragmatiques, quoi. Et, OK, comment je fais pour rester ici ? Et puis, au bout de ces 5 ans, avec justement ce parcours génial, tout le monde était super content. Je reçois une magnifique lettre du gouvernement français qui me disait « Ben, Paula, maintenant qu'on a payé pour vos études pendant 5 ans, ben, vous pouvez rentrer dans votre pays et on va tisser des ponts. » Et donc là, j'ai eu un peu ce moment d'arrêt sur image en me disant, mais en fait, et si j'ai pas envie de rentrer, je fais comment? Et c'est là, en fait, on comprend que quand on est immigrant quelque part, on est sur un siège éjectable. Et ça, pour moi, c'était quelque chose qui était très, très clair devant moi. Je dis toujours que j'ai un peu le syndrome du métèque. C'est-à-dire que je sais que là où je suis, c'est pas gagné que je reste. Donc, on commence à développer des tas de stratégies de survie, en fait, quand on est là-dedans. Et donc, voilà, je reçois cette lettre et je commence un peu à paniquer parce que même si j'adore mon pays, je voulais pas y vivre. Et là, j'ai une opportunité de travailler pour ma tante qui est peintre. Et je commence à la suivre un peu partout en Europe, en la filmant, parce qu'en fait, elle est peintre, donc elle enterre aussi ses tableaux. Donc, c'est tout un travail d'un peu de land art et tout ça. Donc, ça, c'était génial. Donc, ça m'a permis déjà de commencer à travailler avec la communication audiovisuelle, mais aussi beaucoup l'écrit. Et de fil en aiguille, ben, comme elle est mariée à Paulo Coelho, qui est donc l'écrivain de L'Alchimiste, Paolo m'a donné aussi la possibilité de commencer à travailler pour lui. Il a lancé son blog à ce moment-là. Donc ça, c'était 2006-2007. Hein. C'était le tout début des... Bah, pas totalement tout début des blogs, mais quand même, c'était encore, disons, l'âge d'or des blogs. Et en fait, donc on lance son blog, on voit les réseaux sociaux arriver. Donc petit à petit, sur le tas, je commence à apprendre la communication digitale. Et j'ai travaillé avec Paolo pendant 3 ans. Et c'était l'équivalent de 30. C'était incroyable. J'ai appris... D'ailleurs, c'était très drôle parce que j'avais mon super diplôme, mon master de marketing et communication. Et je me rappelle qu'à l'époque, les cours de com, ils étaient encore basés sur du print. L'internet, c'était tellement nouveau que j'avais... Je pense que si j'ai eu 2 cours sur la communication digitale, c'était beaucoup, quoi. Donc... Je rentre dans le monde qui était en pleine mutation et avec ce développement-là d'Internet qui était fabuleux, quoi. C'était impressionnant de voir comme les choses allaient vite. Et c'est vraiment sur le tas que j'ai commencé à apprendre la communication digitale. Donc, très vite, je me retrouve dans ce rôle de communicante. Chose que j'aime beaucoup parce que j'ai un côté mercuriel. J'adore les langues, j'aime bien quand ça va vite, j'aime bien apprendre, j'aime bien transmettre. Donc, il n'y a pas de problème. Et en plus... Pour un écrivain qui a un message, quoi. C'est-à-dire que ça, c'était quelque chose que, franchement, c'était une grande inspiration. L'Alchimiste, le Pèlerin de Compostelle et tout ça. Et je voyais d'ailleurs que la communauté de Paolo, elle était extrêmement engagée. C'était vraiment super intéressant. 3 ans se passent et effectivement, bah, au bout d'un moment, c'était trop intense et j'ai décidé en fait voilà d'arrêter de travailler pour Paolo et à ce moment-là j'ai un peu une période de flottement. Je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire. Je me marie aussi à l'époque, donc retour de Saturne by the way. Donc j'avais 28-29 ans donc c'était vraiment un moment de bascule très fort. En plus en me mariant tout de suite, c'était beaucoup plus simple pour moi de rester en France parce que visa de 10 ans, truc que je m'attendais pas et que d'ailleurs j'étais un peu réticente à accepter, quoi, parce que j'ai ma fierté quand même. Mais disons que voilà, les choses deviennent beaucoup plus simples pour pouvoir rester en France. Et là, période un peu de flottement comme ça. Et un jour, voilà, je connaissais donc Christina Cordula, donc présentatrice M6, et elle me dit, voilà, Paula, j'aimerais beaucoup pouvoir justement lancer mes réseaux et tout ça. Et moi, je dis, ben, très bien, je pense être la personne pour faire ça. Donc, je commence à collaborer avec Christina. C'était genre 2009-2010. Et là, il y avait tout à faire, refaire le site, lancer la newsletter, ouvrir les réseaux et tout ça. Donc, j'ai collaboré avec Christina pendant 14 ans. Et c'était une collaboration qui était géniale parce que grâce à Christina, donc, j'ai pu vraiment voilà, faire tout ce travail de réseau. En 14 ans, on a réussi à avoir une communauté de 7 millions de personnes quand même, qui n'est pas rien. Aussi, grâce à elle, j'ai pu faire du travail éditorial parce qu'elle a, elle a écrit des livres hein, pour Larousse et moi, j'étais un peu la journaliste. Donc, c'était super. Donc, j'ai pu mettre un pied dans le monde de l'édition grâce à ça. À un moment donné, elle m'a invitée aussi pour être rédactrice en chef d'une émission qu'elle faisait sur Teva qui s'appelait Magnifique. Donc, en fait, avec Christina, j'ai pu toucher en fait, à différents domaines de communication. Donc, à la fois l'édition, la télé et le web, quoi. Donc, j'avais vraiment l'impression d'avoir une sorte de vue panoramique de tout ça qui était génial. Mais évidemment, c'était l'univers de Christina, hein. C'était l'univers de la mode, c'était l'univers du maquillage, du relooking et tout ça. Chose que je trouve très intéressante, mais qui n'est pas une passion. Au bout d'un moment, c'est vrai que pour moi, c'était pas suffisant, quoi, en termes de, voilà, intellectuellement et tout ça. Même si je trouve ça super intéressant et ça vient parler de notre époque, hein, y a aucun problème. Et je respecte énormément la vision et le travail de Christina, mais c'était pas mon truc. Et je sens en fait que ça grondait de plus en plus fort, une sorte d'insatisfaction et de me dire mais en fait, est-ce que ça me convient d'être juste communicante, de transmettre le message des autres? Est-ce que j'ai pas quelque chose moi aussi à transmettre? Et j'essaie un peu de chasser ça parce que voilà, j'avais les enfants qui étaient petits, voilà, il y avait la maison, hein, donc on essaye quand même d'avancer, mais on se rend compte qu'il y a un truc qui va pas. Puis un jour, j'ai la possibilité de faire un cours online pour une plateforme en ligne qui s'appelle Live Mentor, qui aide en fait les porteurs de projets à développer leurs projets. Et j'ai fait toute une série de cours sur Instagram. Donc c'était, je pense, en 2017, par là, 2018. Et à ce moment-là, je découvre en fait que j'adore enseigner, chose que j'avais jamais fait avant. Et je me dis, mais c'est génial. En plus, enseigner online, c'est fantastique, quoi. C'est la possibilité de toucher des tas de gens un peu partout dans le monde, de transmettre des idées qui nous tiennent à cœur et tout ça. Et à ce moment-là, je me pose la question. Je dis, mais j'aimerais beaucoup pouvoir transmettre quelque chose. Mais quoi? Et petit travail d'introspection. Et franchement, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai comme une sorte de petite voix qui me dit, ben... Parce que moi, en fait, tout ce que je me disais, c'est « Ok, je pourrais très bien transmettre de la com. » Communication online, comment utiliser Instagram et tout. Et en plus, je me disais, ça serait la voie royale. Avec tout mon parcours, je pourrais très vite gagner ma vie, même monter une petite agence et continuer dans la com. Mais je savais que c'était pas mon truc. C'était pas ma passion. Et j'avais à cœur aussi une phrase que j'avais entendue de Steve Jobs, qui disait, bah, la vraie différence quand on fait quelque chose, c'est d'être passionné. Parce que quand on est passionné de quelque chose, on est constamment en train de se coltiner à ce qu'on aime, quoi. Donc, même quand on est censé se reposer, on est quand même en train de voilà, lire, se renseigner, parce que c'est une passion. Et moi, je me suis dit, bon voilà, la communication online, c'est pas une passion. Et donc, c'était un choix dur, difficile, hein, de dire, OK, mais qu'est-ce que je pourrais transmettre? Et très vite, je me suis dit, mais en fait, je voudrais bien transmettre quelque chose qui ne se périme pas. Parce que ce que j'avais compris de la communication digitale, c'est que les réseaux sociaux viennent et disparaissent, que c'est une communication qui dure 24 heures parfois. Ça va tellement vite et c'est tellement périssable que je me suis dit, mais c'est pas ça, quoi. Donc, je voulais transmettre un truc qui ne se périme pas. Et j'ai eu la petite voix qui me dit... Donc, la petite voix, c'est vraiment cette voix, je dirais, de l'intuition, en fait. Quelque chose qui nous parle, qu'il faut quand même vraiment se poser pour écouter, parce que ça murmure. Et cette petite voix qui me dit... astrologie. Et là, je tombe du perchoir. Je me dis, mais comment ça, l'astrologie? Je ne suis pas astrologue. Et la petite voix qui dit, bah alors, deviens-le. Et là, c'était genre, waouh, ok, j'avais jamais été, je lisais pas les horoscopes de magazines, ça n'a jamais été mon truc, j'étais absolument pas dans l'univers du bien-être ou de la santé ou de la spiritualité. Bon, j'avais mes propres lectures, j'avais ma propre sensibilité. Je suis mariée à un homme qui aussi a une sorte de soif spirituelle vraiment très, très, très développée. Donc, mais tout ça, c'était très privé, quoi. Genre, j'avais pas du tout, de vision très claire de tout ça. Et donc, je me dis, bon, ok, astrologie, quoi, ok. Et là, comme vierge, une bonne petite vierge, ascendant Capricorne, je me dis, bon, ok, donc, si tu veux devenir astrologue, bah, maintenant, il va falloir s'organiser. Et là, je commence à faire des recherches. Parce que même si l'intuition nous dit quelque chose, je pense qu'il faut toujours garder son sens critique et de dire, ok, si je veux faire ça, il faut que déjà, j'essaye d'apprendre correctement et voir si effectivement, ça me parle. Et là, donc, je m'inscris à l'université, à la Faculty of Astrological Studies de Londres, qui proposait déjà à l'époque des cours à distance, en distanciel via Zoom. Et je vois leur programme, un programme sur 3 ans. Je voyais qu'ils avaient un tropisme assez jungien et tout ça, et ça m'intéressait. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire ça. En plus, j'ai une passion pour l'Angleterre. Je me dis, super, c'est quasiment comme si j'étais en contact avec l'Angleterre et ça me plaît bien. Et là, je commence mon cursus et au bout de 2 cours, je me dis, mais c'est ça. C'est sans aucun doute ça. Parce que c'était de l'astronomie, chose que j'ai toujours adorée. C'était de la mythologie, chose que j'ai toujours adorée. C'était de la psychologie, chose que je découvrais, que je trouvais fascinante. C'était du symbole, c'était de la spiritualité. Et en fait, c'était toutes les choses qui m'intéressaient étaient finalement réunies dans une pratique. Là, je me dis, bah, je pense que c'est bon, c'est bien ça. Et voilà, je commence à étudier, je dévore tous les livres, je me prépare pour toutes les sessions, alors que je travaillais toujours. J'étais, voilà, deux enfants petits, il y avait du travail de communication toujours avec Christina et tout ça, donc beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'était une passion. Donc, les soirs, je lisais ça. Les week-ends, je lisais ça. À l'heure du déjeuner, je m'arrêtais pour écouter des podcasts, des trucs. Donc, ça s'est fait très naturellement. Et au bout d'un certain moment, donc, on étudie pendant 1 an vraiment à fond le symbolisme astrologique. Et on est encouragé par l'école de, au bout d'un an, commencer à faire des lectures de thèmes. Évidemment que ce n'est pas obligatoire. Beaucoup de personnes vont d'ailleurs avoir besoin de beaucoup plus de temps que ça. Mais moi, dans ma tête, c'était quelque chose qui était très clair. Je me disais, bon voilà, un forgeron, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut se jeter à l'eau. Et la peur au ventre, en doutant de moi, n'étant absolument pas sûre que j'allais faire un travail correct ou quoi que ce soit, je me dis, bon, je me suis entraînée déjà sur des amis, la famille, le truc, le machin, je pense que j'ai capté le truc, ben on y va. Et je me lance. D'abord, juste avec lecture de thème. Hein. Et là, les gens commence à apparaître. Je commence à faire des lectures et d'autres lectures. J'ouvre d'ailleurs aussi mon cabinet à Moray. De fil en aiguille, ben, je commence à comprendre que bah, oui, quoi, c'est exactement ça. Et j'ai pratiqué, disons, de façon professionnelle les lectures de thèmes pendant, ouais, je dirais 1 an. Une bonne année où j'ai vu pas mal de gens. Et en fait, arrive le Covid. 2020. Et là, moi, j'ai vécu vraiment la première vague de Covid comme une descente aux enfers. C'était psychologiquement, pour moi, c'était très, très difficile. Je m'attendais pas à vivre ça dans ma vie. Tu sais, parfois, tu peux imaginer que tu... D'ailleurs, c'est même des cauchemars, mais parfois, tu peux dire, ouais, peut-être qu'un jour, je pourrais vivre une guerre... ou en déplacement, mais j'avais jamais imaginé de vivre une pandémie. Donc, limite, je pensais qu'il y allait avoir des zombies à l'extérieur de la maison. Genre, tu vois, je suis pas sortie de chez moi pendant 1 mois. C'était mon mari qui sortait. Tellement j'étais atterrée, quoi. Ça a vraiment réveillé des tas de peurs très profondes chez moi. Et en fait, à ce moment-là, alors que j'étais au fond du monde d'Hadès, quoi, j'étais vraiment au fond du trou, quoi, je reçois un message via Instagram d'une femme que j'adore, qui m'inspire aussi beaucoup, qui est Stéphanie Lafranc, tisanière tatouée, qui a écrit un livre sur les gardiennes de la lune, et récemment elle écrit un livre sur le labyrinthe, qui est une femme incroyable, Sagittaire. Et elle m'envoie un message, elle me dit à l'époque, hein, elle me dit « Paula, j'aimerais beaucoup pouvoir apprendre avec toi ». Et moi, je dis « Mais Stéphanie, t'as écrit un livre sur la lune, quoi, genre, qu'est-ce que tu vas apprendre avec moi ?» Elle me dit « Mais Paula, j'ai beaucoup appris, très Sagittaire, hein. J'ai toujours appris d'une façon très intuitive et tout, là j'ai besoin de que ça soit carré. Et je sens que t'es la personne pour me transmettre ça. » Et là, je dis « Bah, je vais essayer de faire de mon mieux ». Et j'ai lancé un petit groupe d'études via Zoom pendant le Covid. Et tous les samedis, je présentais, voilà, on a commencé avec les planètes, puis les signes, puis les maisons, les aspects. Et donc, toutes les semaines, j'avais cette sorte de lumière au bout du tunnel qui me permettait de m'orienter vers une transmission. Et ça a été vraiment ce qui m'a, je pense, sauvée à ce moment-là. C'était incroyable. Et c'était exactement, je commençais à faire exactement ce que je voulais, en fait. Transmettre quelque chose d'impérissable. Donc, ça a été un moment de, voilà, de métamorphose extraordinaire, de transmission. Je me sentais reliée aux autres, alors que, bon, chacun était chez soi. C'était, on ne pouvait quasiment pas sortir, en plus. Et grâce à ça, j'avais, sans me rendre compte, établi un peu le plan de mon livre d'astro. Parce que toujours 2020, fin de l'année, je reçois un mail d'une éditrice de chez Larousse avec qui j'avais collaboré parce que j'avais écrit des livres pour Christina. Hein. Et en fait, on connaissait mon travail. J'avais aussi fait de la communication digitale pour Larousse, donc c'était une maison qui me connaissait bien. Et là, je reçois le mail donc, de Marie Gazagne, éditrice, qui me dit « Paula, j'ai vu ta métamorphose, j'ai vu que voilà, tu es devenue astrologue et tout ça. Est-ce que ça te dirait d'écrire un livre d'initiation à l'astrologie ?» Et là, évidemment, première réaction, c'est « Comment ça ?» Je suis qui, moi, pour écrire un livre d'initiation à l'astrologie ? Ça fait peut-être, en tout cas, c'est 3 ans que je pratique. Il y a des gens qui ont 1000 fois plus d'expérience que moi. Voilà, syndrome de l'imposteur à fond la caisse. Et en fait, elle me dit, Paula, mais c'est ce qu'on veut, c'est vraiment un livre d'initiation. C'est le B.A.B.A. Donc, c'est pas du tout le livre qu'on va écrire après 40 ans de pratique. C'est un livre qu'on écrit pour des gens qui débutent, qui ne savent rien. Et là, ça m'a renvoyé en fait à cette idée que j'ai toujours trouvée géniale. C'est un peu dans les classes en fait où un élève qui est un petit peu plus avancé, il est censé en fait transmettre ce qu'il a compris aux autres élèves. Et donc ça m'a vraiment permis de me débloquer. Et je me suis dit bon, ok, je vais mettre à plat tout ce que j'ai appris, essayer d'organiser ça au mieux pour que ça soit le plus didactique possible. Mais j'ai une condition. Et là, elle me dit, bah laquelle ? Elle dit, il faut que les illustrations soient mes illustrations. Parce que je suis artiste, collagiste. Et pour moi, c'était vraiment, j'allais pas faire un livre si graphiquement, c'était pas mon livre. Et là, elle me dit, mais Paula, c'était évident que t'allais faire les illustrations. Et là, ça m'a fait plaisir. Et là, je dis, bon, d'accord, ok, donc je vais faire ce livre. Et donc, toute l'année de 2021, ça a été écrire ça et illustrer. Et ça a été génial parce qu'une fois de plus, quoi, c'est quand on transmet un savoir qu'on peut le mettre en forme, aller travailler les points de blocage, comprendre pourquoi ça bloque, comment emmener les gens à comprendre quelque chose. Donc, ça a été génial, même moi, pour ma pratique, hein, de devoir encore, une fois de plus, revenir sur les bases, les transmettre, ainsi de suite. Et donc, voilà, le livre, il est sorti, je pense, en 2022, début 2022. Et il a très bien marché. Et je me rappelle, quand j'ai donné le livre, sachant comment ça marche dans le monde de l'édition, c'est-à-dire qu'il faut qu'un projet marche pour qu'on te propose un autre. Ce qui est logique. Et moi, je me dis, voilà, si ce livre, il marche et qu'on fait un deuxième projet, j'aimerais beaucoup pouvoir faire un oracle. Et là, elle me dit, bah d'accord, un oracle de quoi? Et moi, je dis, bah j'aimerais beaucoup faire un oracle sur les étoiles, sur les constellations et les étoiles. Et parce qu'en fait, pendant mes études d'astrologie, je constatais qu'on se concentrait beaucoup sur les planètes du système solaire, mais qu'en fait, on ne prenait absolument pas en considération le reste de la voûte. Et je trouvais ça bizarre, parce que je me suis dit, mais attends, il y a quand même toutes les étoiles, il y a tellement plus, et on ne s'intéresse pas à ça. Et en fait, en faisant des recherches et en suivant certaines masterclass, des cours et tout ça, je découvre qu'en fait, il existe une tradition très ancienne basée sur les étoiles. Ce qui sort, si tu veux, du zodiaque, ce qui sort de notre système solaire. Et en fait, j'étais fascinée par ça. Et je me suis dit, si un jour je fais quelque chose, j'aimerais beaucoup faire un oracle sur les étoiles fixes. Et ça a été le deuxième projet, effectivement, que j'ai fait pour Larousse. J'ai fait un oracle où, voilà, avec l'esthétique, avec voilà, du collage digital et basé sur les étoiles et sur les constellations. Et en fait, les mythes des constellations, le message de ces étoiles qui remontent effectivement à la racine, à la base même de l'astrologie. C'est-à-dire qu'on remonte à l'époque babylonienne avec ça, égyptienne. On voit en fait les différentes strates. Les Babyloniens, les Égyptiens, les Grecs. Et comme j'ai toujours adoré ça, ça a été pour moi une sorte, je me rappellerai toujours, de janvier à juin 2023, j'avais l'impression en fait de faire une sorte de randonnée dans le ciel. C'était extraordinaire de revisiter tous les mythes, de devoir justement les transmettre dans un format qui était accessible, de faire la création des images. Toutes les images, j'ai utilisé en fait un stellarium pour pouvoir justement placer les lignes de longitude et latitude. Le placement des étoiles est précis. Sauf les magnitudes des étoiles, là pour le coup je me suis donné un peu de liberté artistique parce que sinon ça n'allait pas marcher visuellement. Mais c'était tout ça quoi. Et donc, dans mon parcours, je dirais que si je devais le synthétiser, il y avait toujours ce côté d'essayer de trouver quelque chose qui soit vraiment moi. De pas me laisser convaincre, je sais pas. Je pense que beaucoup de fois dans notre vie, en fait, parfois on fait des choix parce que c'est plus convenable. Je sais que de là où je viens, disons, fille de diplomate qui a fait des grandes écoles, blablabla, dire un jour je vais être astrologue, c'est inimaginable. C'est totalement inimaginable. Mais en suivant la voie, notre voie intérieure, je dirais que c'est la seule voie valide ou valable. Parce que si on la suit pas, je trouve qu'on se trouve un peu à la périphérie de nous-mêmes. Et j'avais vraiment pas envie de vivre cette vie en étant à la périphérie de moi-même. Voilà.
Waouh. Et aujourd'hui, du coup, t'en es où, tes projets? C'est quoi la suite? C'est quoi les rêves? C'est quoi? Qu'est-ce qui est en place?
En ce moment, je suis sur deux projets éditoriaux. Un pour faire donc des 100 images, c'est des petites cartes postales astrologiques. Je suis en train de faire ça. Pour Webedia, d'ailleurs, ils ont un pôle de publication et ils m'ont demandé justement de faire ce projet-là. Et je suis aussi en train de concevoir un agenda perpétuel astrologique. Donc, j'ai ces deux projets-là en parallèle. Voilà. Donc, c'est un peu ça en termes éditoriaux. Et maintenant, c'est vrai que, disons, mon activité, c'est lecture de thèmes astro, donc thèmes de naissance, mais aussi évidemment tout ce qui est transit, révolution solaire. Je donne aussi des cours. J'ai un cours d'initiation à l'astrologie qui est beaucoup basé sur mon livre. Là, je suis en train de finaliser un cours justement sur les mythes de la voûte céleste. Et je fais aussi des masterclass. Donc voilà, je suis en train de développer tout ça. Donc l'idée pour moi, c'est d'avoir vraiment à la fois une pratique, voilà, avoir ma pratique astrologique hein, avec les clients, avoir le côté prof et le côté artistique plus dans l'édition. Donc c'est les trois grands volets, disons, de ma pratique actuelle.
Trop bien.
Voilà.
Merci Paula.
De rien, merci à toi.
Et voilà, c'était l'histoire de Paula, cette femme si inspirante au parcours incroyable. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne envie d'en savoir plus, parce que le prochain épisode sera dédié à son activité, sa façon d'exercer et tout ce qui va autour. On se retrouve tout bientôt au cœur du Lotus.